Bonjour à tous, bienvenue sur Cité Radio. On se retrouve aujourd'hui pour la 13e édition des Assises internationales du journalisme, donc qui porte cette année sur l'urgence climatique. Aujourd'hui, je suis avec Yolin Gauthier. Bonjour Yolin.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis expliquer pourquoi je vous appelle?
Alors, moi je suis maraîcher depuis maintenant 2 ans sur le Potager de Loire, qui est une entreprise maraîchère, qui a une particularité qui est agroécologique et permacole. C'est-à-dire que j'essaie de me rapprocher un maximum de la nature dans mes itinéraires techniques, dans la manière dont j'appréhende en fait ce métier. Et j'étais anciennement dans l'hôtellerie-restauration.
D'accord.
J'y ai travaillé pendant 5 ans. J'étais directeur de plusieurs hôtels-restaurants et donc j'ai décidé de faire une reconversion dans le maraîchage. J'ai 30 ans et je travaille au Potager de Loire depuis 2 ans, 2 ans et demi. Je suis maintenant là en production de légumes, donc en agriculture biologique.
D'accord, et donc votre projet a été très récemment relayé par les médias. C'est ça?
Oui, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un terrain qui était dans un état qui n'était pas forcément très évident à la reprise. C'était un terrain qui était jonché de pas mal de déchets. On a retiré 250 tonnes de déchets. Il y avait également une grande bambouseraie, il y avait beaucoup de végétation un petit peu sauvage. Donc il a fallu faire du nettoyage, réhabiliter, assainir le terrain, faire des analyses de sol pour s'assurer que tout était OK. Et donc il y avait tellement de travail, tellement d'œuvres à réaliser que j'ai fait appel en fait à de nombreux bénévoles, tout un réseau qui est venu me prêter main forte pour le nettoyage, pour installer aussi les structures, etc. Et effectivement, j'ai pu bénéficier d'une assez grande couverture médiatique parce que voilà, c'était à la fois un projet original et puis un petit peu ambitieux par rapport à l'état du terrain. Et la Nouvelle République, des radios et différents journaux m'ont contacté effectivement pour relayer un petit peu les actions que j'avais menées sur ce terrain.
Et alors, quelle est la spécificité de ce potager?
Alors la spécificité, c'est que j'ai décidé de travailler finalement avec les mêmes outils que peuvent avoir n'importe quel jardinier amateur. C'est-à-dire que j'utilise aucun engin mécanique, je ne travaille pas le sol. J'utilise pas non plus de pesticides, y compris ceux qui pourraient être autorisés en agriculture biologique. Et je n'utilise pas non plus d'engrais. C'est-à-dire que j'ai une approche vraiment par le sol. C'est-à-dire que moi, finalement, mon métier, c'est de cultiver du sol. Je nourris le sol avec des amendements, donc avec de la matière organique brute, de la paille, du foin, du compost, du fumier, du broyat de bois. Ce sol, du coup, se nourrit de cette matière et en tire une grande fertilité et également la capacité à protéger les plantes, ce qui me permet en fait de m'affranchir des pesticides et des engrais.
Est-ce qu'au quotidien, vous êtes tout seul à gérer ça ou pas?
Alors, pour le moment, je suis seul et là, récemment, je me suis associé avec un autre maraîcher qui est sur une toute petite surface à Fondettes, Antoine Cormery. On est en train de former ensemble un GAEC, qui est donc une forme juridique qui permet en fait de s'associer. Un groupement agricole.
Très bien. Est-ce que du coup vous êtes plutôt engagé dans l'écologie? Je crois que c'est le moins de le dire. Est-ce que vous pensez que c'est un enjeu majeur de notre société?
Alors, effectivement, moi, je me suis directement. En fait, j'ai fait plusieurs évaluations de milieu de travail, qu'on appelle les EMT, via le Pôle emploi, des différents maraîchers bio de Touraine. J'ai pu, en fait, du coup, voir plusieurs modèles différents en agriculture biologique. Et assez rapidement, il m'est paru évident qu'il fallait pousser ce modèle encore plus loin, c'est-à-dire il fallait pas simplement convertir un mode conventionnel en mode biologique simplement en remplaçant les pesticides chimiques par des pesticides bio et changer les engrais chimiques par des engrais bio. Il fallait aller plus loin, il fallait se rapprocher d'un maraîchage vraiment naturel, ce qui permet en fait une forte résilience et une forte aussi cohérence. Moi, j'avais besoin de ça aussi par rapport à mes valeurs, c'est-à-dire que je voulais vraiment avoir à la fois une empreinte carbone assez minime, je voulais produire des légumes de la manière la plus naturelle possible. Et donc, il a fallu créer un modèle économiquement viable pour pouvoir pour que ça fonctionne. Et donc là, la permaculture, elle a pris tout son sens. La permaculture, donc c'est l'art de concevoir des systèmes humains soutenables. Et donc ce potager, je l'ai voulu en fait selon le modèle de la permaculture, c'est-à-dire avec une forte résilience, une structure qui va être aussi très ergonomique. On sait que les agriculteurs ont souvent des problèmes, des troubles musculo-squelettiques, des problèmes physiologiques assez rapidement après plusieurs années de travail. Donc il fallait en fait voilà ménager la monture comme on dit. Et puis voilà donc c'est en fait c'est cet ensemble que j'ai voulu le plus cohérent possible. Et on sait aujourd'hui bah voilà que travailler avec des tracteurs ça engendre beaucoup de problèmes à la fois pour l'agriculteur comme pour le sol. Les pesticides, les engrais, même s'ils sont bio aussi pose des problèmes aussi pour la biodiversité. Donc il a fallu en fait voilà trouver grâce à la permaculture tout un tas de solutions à tout un tas de problèmes donnés en fait sur ce terrain.
Est-ce que vous rencontrez des difficultés en évitant cette facilité d'utiliser les pesticides, etc.?
Alors non, c'est un petit peu tout le contraire parce que
Ah, c'est étonnant.
finalement les engrais, les pesticides, etc. C'est finalement de la facilité. C'est-à-dire que sur le moment, on a des résultats hyper concrets très rapidement et puis on se rend compte en fait sur le long terme qu'on s'est tiré une balle dans le pied.
D'accord.
Donc moi justement en utilisant que les mécanismes naturels. La mise en route est un peu plus lente. Par contre, sur le long terme, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. C'est économiquement très rentable. C'est-à-dire que ça me permet en fait j'ai besoin de dégager un très faible chiffre d'affaires pour facilement me tirer un salaire. C'est-à-dire que vu que j'ai très peu de charges, un faible chiffre d'affaires suffit en fait à me tirer un salaire confortable.
Oui, en fait, les pesticides vous enlèvent forcément des charges que d'autres pourraient dépenser.
Ben oui, ces engrais, ces pesticides, en fait, ils coûtent finalement quand même assez cher. Ils ont une action très rapide sur le sol. Le problème, c'est que si je prends par exemple en bio des produits qui sont utilisés, comme le pyrèthre par exemple, qui est un insecticide naturel, il va effectivement pouvoir me débarrasser d'un prédateur assez rapidement. Mais derrière, en fait, ça favorise pas l'activité des auxiliaires de culture qui, eux, auraient pu me débarrasser de ces insectes. Et ces pesticides, en fait, ont souvent une action, ce qu'on a à large spectre, et ne vont pas tuer en fait que le prédateur. Ils vont tuer aussi des insectes intéressants, des choses qui auraient pu en fait m'aider. Et donc, et pareil pour les engrais. Il y a des mécanismes en fait dans le sol qui permettent d'accroître la fertilité, d'avoir une bonne fertilité. Le problème, c'est que quand on met ces engrais, on squeeze l'activité du sol, et donc derrière, en fait, on va perdre en population de champignons, en population de bactéries, des bonnes bactéries, des bons champignons qui auraient pu m'aider. Et donc, vu que les plantes, on les nourrit directement, bah, ces plantes ne sont plus incitées en fait à aller faire des symbioses, à aller faire des alliances en fait avec toute cette biodiversité.
Alors ma question ce serait, est-ce que vous utilisez quand même on pourrait dire des astuces pour finalement vous débarrasser des insectes nuisibles, pour améliorer la qualité de votre sol, mais de manière totalement naturelle?
Alors, les astuces, en fait, elles sont purement naturelles et c'est un peu du biomimétisme. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai la chance d'avoir mon colocataire Thibaut Rivière qui est ornithologue. Et là, il y a quelques jours, on a fait un petit chantier au potager de Loire pour construire des nichoirs. Il faut savoir, par exemple, que donc on a construit des nichoirs pour accueillir des mésanges, pour accueillir des rouges-queues. Une nichée de mésanges, par exemple, c'est 5 000 chenilles de manger par nichée. Donc l'année dernière, j'ai eu une petite pression au niveau des choux, par exemple, avec des chenilles qui ont attaqué mes choux. Je pense que cette année, la pression va être beaucoup moins grande grâce à ces nichoirs, c'est-à-dire que je repeuple le terrain avec certains oiseaux qui sont bien identifiés et qui sont des très bons auxiliaires de culture et qui vont en fait naturellement me débarrasser de ces chenilles.
Vous
Donc
implantez
c'est...
directement les oiseaux avec les nichoirs ou c'est
Non,
aux
non, non, non,
espèces de
non, non.
venir? D'accord.
En fait, voilà. En fait, moi, j'ai la chance. Voilà, je suis en bordure de Loire, donc je sais qu'il y a déjà des populations assez importantes d'oiseaux. Mais c'est en fait les nichoirs permettent de les inciter, de leur créer des abris tout près, pour qu'ils puissent nicher en fait directement sur le terrain. Et on sait par exemple que les mésanges vont se nourrir au plus proche. Donc, s'il y a à manger sur le terrain, elles resteront sur le terrain en fait.
Très bien.
C'est comme je pensais à quelque chose, par exemple, vous savez, quand il y a des pucerons, souvent on vient nettoyer tout ça au savon noir. Alors si on détruit nous-mêmes les pucerons, eh bien du coup tous les auxiliaires qui mangeraient les pucerons ne seraient pas amenés à vivre sur le terrain. Si vous leur supprimez leur nourriture, on parle souvent de gîte et de couvert. Si vous offrez le gîte et le couvert à un auxiliaire de culture, il sera présent sur le terrain. Donc par exemple, quand il y a des pucerons, surtout j'y touche pas, et je laisse les cirques, je laisse les coccinelles, je laisse tous ces petits insectes venir me débarrasser en fait naturellement de ces prédateurs.
Et comment
Et
vous
donc
savez qu'elles
ainsi.
seront au rendez-vous? Vous faites confiance naturellement ou...
Alors, c'est plus qu'une question de confiance, en fait. C'est simplement, je sais, par exemple, si vous voulez, ce qui est difficile pour un jardinier, c'est de comprendre que le prédateur arrive toujours avant l'auxiliaire. C'est-à-dire que le prédateur de culture s'installe, et après, il faut laisser du temps à l'auxiliaire d'arriver, de se multiplier et de se débarrasser. Donc, en fait, il faut réunir toutes les conditions en amont pour que les auxiliaires soient présents très rapidement. Donc il y a par exemple les sureaux. On sait par exemple que les sureaux accueillent des pucerons très 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 tôt dans la saison. Donc si vous avez des sureaux sur un terrain par exemple, les cirfes, les coccinelles seront présentes aussi beaucoup plus tôt parce qu'il y a les pucerons qui se seront installés assez tôt. Et donc quand certaines cultures sujettes aux pucerons comme les haricots, comme les fèves par exemple seront là, eh bien les auxiliaires seront déjà présents sur le terrain. Pour nettoyer en fait les cultures de ces prédateurs.
Très bien, d'accord. Question assez générale, comment on fait pour acheter vos fruits et légumes?
Alors, les fruits et légumes. Donc nous, on est avec Antoine sur une commercialisation en direct. On vend le vendredi après-midi directement sur le terrain. Donc on a des abonnements paniers. Les clients viennent, ils ont deux paniers de proposés. Donc ils sont abonnés sur un format de panier. Donc il y en a un actuellement à 8 et un à 16. Et ils ont tous les légumes qui sont en vrac. Ils ont un menu qui est affiché, donc ils savent par exemple que dans le grand panier, par exemple, il y a 1 kg de carottes, il y a 1 kg de haricots verts, 1 kg de ceci, 1 kg de cela. Et ils ont une balance en fait, et donc ça leur permet de choisir aussi un petit peu les légumes en fonction du calibre, en fonction de ce qu'ils veulent cuisiner. Et ils assemblent leur panier eux-mêmes. Et puis ça favorise en même temps de l'échange, du contact, c'est-à-dire que les clients entre eux sont amenés à discuter, à partager. Il y a aussi un bac de sortie où, si par exemple un légume que vous n'appréciez pas voilà, est dans votre panier, bah, du coup vous pouvez le déposer dans le bac et puis prendre un autre légume qu'a laissé un autre client. Et donc ça permet de faire des échanges, ça permet de créer du lien social. Et puis nous, ça nous permet vendredi après-midi de passer du temps aussi avec eux, discuter, de savoir un petit peu comment ça s'est passé par rapport au dernier panier. Ça leur permet aussi de leur montrer le terrain, de leur montrer les prochains légumes qui arrivent. Et puis ils sont aussi incités à venir donner un petit coup de main de temps en temps. S'il y a un chantier important, un éclaircissage de carottes ou quelque chose comme ça, de venir et donc de voir aussi un petit peu concrètement qu'est-ce que ça représente, voilà, de cultiver un terrain, de produire des légumes. Et donc le consommateur devient d'une certaine manière consommateur, acteur de sa production, de sa consommation, pardon. Et donc c'est plutôt sympa. Donc on recommence les abonnements vendredi prochain. Et on fait également des ventes auprès des restaurateurs. Donc ça c'est le mardi, on va livrer des restaurateurs du centre-ville de Tours. Plutôt des restaurants gastronomiques, mais pas que. Il y a aussi entre guillemets, des fast-food qui nous prennent également des légumes. Et donc vous pouvez aussi retrouver nos légumes chez les restaurants de la place de Tours.
Très bien. Est-ce que vous avez eu justement des curieux qui voulaient voir le potager, voir comment ça se passe?
Oui, alors l'année dernière, donc on a fait de nombreuses visites et également il y a un projet complémentaire au sein du potager de Loire qui est sur donc l'angle nord-est du terrain, la guinguette de l'Arrose Loire. Donc c'est une association que j'ai cofondée avec Brice Lamblin, qui est le microbrasseur de la MBT, la microbrasserie de Tours, qui est installée à La Riche. Et donc on a fondé cette association qui rassemble aujourd'hui déjà une cinquantaine d'adhérents. D'ailleurs, n'importe qui peut venir adhérer à l'association. Il suffit d'aller sur LOSO L'Arrose Loire. Donc c'est la contraction de l'arrosoir et de la Loire, donc de l'Arrose Loire. Voilà. Et c'est une association qui cherche à promouvoir l'agroécologie, la permaculture et les économies sociales et solidaires. Et cette association, donc, elle a élu domicile sur un angle du terrain avec du mobilier qui a été créé par les adhérents, par les bénévoles. On a fabriqué donc des sièges en palette, fabriquer des tables. On a donc une buvette, des concerts qui sont organisés, des ateliers, des formations. Et à chaque ouverture de cette guinguette, on fait des visites du terrain qui permet donc du coup à n'importe qui de pouvoir voir un petit peu comment on peut produire des légumes de façon professionnelle avec finalement du matériel amateur en fait d'une certaine manière.
Très bien, question ouverte pour terminer, pour faire un lien avec les assises du journalisme. Est-ce que vous pensez que les populations en général sont assez sensibilisées aux questions écologiques?
Alors, je pense qu'on part de loin, donc on pourra toujours faire mieux. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même à la fois un engouement et une prise de conscience sur toute cette dynamique. Cette dynamique, en fait, elle est nécessaire et surtout, elle est indispensable pour notre survie même à nous, hein, l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, on constate que si on continue sur le modèle actuel, on va très certainement aller dans le mur. Et il faut réagir avant d'être au pied du mur. Donc là, a priori, bon, il y a des thèses un petit peu pessimistes, mais je pense qu'il faut garder un certain optimisme et réussir à dépasser un petit peu nos peurs et changer nos habitudes. Mais je pense que globalement, on est déjà un petit peu sur la bonne voie. En tout cas, moi, je constate au niveau du potager de Loire, que les gens, quand ils découvrent donc ce lieu, cette manière de cultiver, et puis tout ce qui entoure, hein, c'est pas simplement comment cultiver, c'est aussi le lien que l'on crée avec les autres, c'est la dynamique humaine qui est derrière. Je constate quand même que les choses sont en train de bouger.
D'accord,
Après,
donc vous êtes
voilà,
plutôt
c'est.
optimiste en fait pour l'avenir de notre planète.
L'avenir de ma planète, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je constate qu'effectivement que. Parce que bon, du coup, si on part sur une idée pessimiste, dans ces cas-là, autant rester chez soi et puis attendre la fin du monde, si je puis
D'accord,
dire.
donc de
Donc
toute
je pense
façon, il
que.
vaut mieux être optimiste, c'est ça.
Mais de toute manière, en tout cas, voilà, il faut, je pense, être acteur de tout ça, plutôt que d'être passif et d'attendre que les choses se fassent. Après, moi, j'ai décidé maintenant d'arrêter de vouloir convaincre les autres. Je fais ma part, hein. C'est la fameuse allégorie du colibri de Pierre Rabhi. C'est voilà, c'est moi, à mon niveau, je fais ma part, je fais le maximum pour, en tout cas, moi aussi, pour vivre en adéquation avec mes valeurs. Et puis, je constate que les gens, bah, simplement par l'observation, se disent, ah, bah oui, tiens, il fait comme ci, il fait comme ça. Ah, et puis, il a décidé de faire ça. Ah, c'est pas mal. Oui, il y a de la cohérence, etc. Bah, et puis, ah, puis ça a l'air facile. Pourquoi pas moi? Et ainsi de suite, en fait. Et les choses, en fait, s'essaiment, naturellement. Et je pense que c'est certainement la meilleure manière de procéder. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses actuellement. Je cherche pas à convaincre les autres. Je cherche déjà à moi, à faire ma part et surtout changer ma manière d'être, de faire, etc. Et puis je pense que si chacun fait la même chose, enfin fait pareil en tout cas, essaye de changer en fait ses habitudes, sa manière d'agir et tout, je pense que l'ensemble va évoluer vers quelque chose de positif.
En fait, vous pensez qu'il est simple de faire naître des initiatives, c'est ça?
Oui, puis surtout, oui, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même, moi, j'ai bénéficié quand même de pas mal, à la fois de pas mal d'aides, du soutien des collectivités territoriales, donc de la mairie de La Riche, de la métropole de Tours, enfin, la métropole, Tours Métropole Val de Loire. J'ai bénéficié de tout un réseau associatif. Enfin, je sens quand même qu'aujourd'hui, on nous offre des outils, des possibilités, en fait, d'agir, de faire, etc. Peut-être qu'à une époque, c'était pas le cas. Aujourd'hui, en tout cas, ça l'est. Il suffit d'aller chercher un petit peu. Il y a pas mal de dispositifs aussi au niveau de la région, pas mal de subventions, pas mal de. Je pense qu'il y a matière aujourd'hui et on est aidé. Il y a des réseaux, il y a des personnes qui sont prêtes à s'engager. Donc, il faut simplement en fait agiter tirer ces petites ficelles en fait et puis voir ce qu'il y a derrière. Mais globalement, c'est plutôt positif, ouais.
Très bien. Est-ce qu'on peut du coup juste rappeler si on veut avoir accès à votre potager, comment on vous contacte, si on est intéressé?
Alors, il y a une page donc Facebook, Le Potager de Loire, sur laquelle on peut être contacté. Il y a toutes mes coordonnées pour pouvoir voilà avoir des informations sur comment ça se passe. Et donc également la porte d'ouverture, on va dire un peu du Potager de Loire et de tout ce qui s'y passe, c'est donc la guinguette de la Rose Loire. On a également une page Facebook pour la guinguette et on a notre premier week-end d'ouverture le week-end du 30 et 31 mai 2020. Et
Très
puis on
bien.
va ouvrir ensuite 2 week-ends par mois. Toutes les dates sont à retrouver sur notre page Facebook.
Parfait, merci beaucoup.